Alors, monsieur, depuis combien de temps habitez-vous Orléans?
Nous sommes nés.
Nous sommes nés, c'est d'ailleurs le mois de juin 1930. Mm-hmm. Et madame de...
1933. Mm-hmm. Et mes parents sont d'Orléans. Mm-hmm.
Et vous vous plaisez à Orléans?
Non.
Pourquoi?
Non, c'est une ville qui m'a toujours déplu. D'abord, par la mentalité orléanaise.
Et
qu'est-ce que... C'est-à-dire que il y a un proverbe qui dit, et qui a toujours existé et qui reste, on dit toujours les chiens d'Orléans. Mm-hmm. Et les gens d'Orléans ne sont pas aimables comme certaines villes que j'ai fait.
Ils ne sont pas francs.
Ils ne sont pas francs. Si par exemple vous voulez un secours ou n'importe quoi, on vous tournera le dos, on vous tournera la tête.
Si vous avez de l'argent,
là, on en profite, on profitera de vous.
Mais si vous êtes malheureux, on vous tournera le dos. Mmh.
Voyez-vous, j'ai travaillé comme infirmier militaire à Paris pendant 3 ans. Eh bien, les Parisiens ne sont pas comme les Orléanais, ne vous dévisagent pas comment vous êtes habillé, comment... Non. Quoi que ce soit. J'ai fait plusieurs villes, j'ai fait la Côte d'Azur, j'ai fait...
Nous sommes allés à Toulouse.
À Toulouse.
À Toulouse. Moi, je suis allé à Toulouse. Mm-hmm. Et c'est pas comparable.
Aucun comparable vis-à-vis de la ville d'Orléans. Toujours une chose que je peux vous dire, quand même que la jeunesse depuis, la jeunesse a quand même changé, a changé un petit peu la vie bourgeoise qui existait dans le temps à Orléans, temps de Jeanne d'Arc. Mm-hmm.
Est-ce que vous comptez rester à Orléans?
Non, monsieur.
Non.
Pourquoi?
Dès que ma santé sera meilleure, je perds tout ça dépendra de mes chefs, mais d'être muté ailleurs, d'abord par raison de santé, premièrement, parce que le climat ici
ne
convient pas.
Dans le brouillard.
Et je demande soit aller descendre vers le midi, ou alors du côté de la région de Tours, Loir-et-Cher, la Loire. Mais ça, c'est une question de mon métier.
Ah, et qu'est-ce que vous faites comme travail alors?
Je suis multigraphiste à l'EDF et je travaille pour le chef de centre.
Ah, et c'est quoi, qu'est-ce que ça consiste votre travail?
C'est toute l'imprimerie qui concerne l'EDF, c'est-à-dire toutes lettres nécessaires pour tous les services, EDF, GDF, et les plans à tirer. Avant, il y a 4 mois, j'étais muté au service STE, service technique électricité, où je faisais des tirages des plans, donc de toute la construction, les aménagements qu'on devait faire, soit la question de gaz, de tout pour l'EDF.
Et est-ce que vous voulez bien me décrire une journée de votre travail?
Une demi-journée pour le moment.
Alors, allez,
une dactylo me donne un stencil à faire, ou plusieurs stencils à faire. Je le tire sur une machine. C'est une machine d'imprimerie. Mm-hmm. Et dès que c'est fini, je lui donne. Et un travail un peu ingrat parce que... C'est une pièce où je travaille dans ce salle. Mais c'est un travail très intéressant. Mm-hmm. Mais ça ne concerne que EDF et GDF. Mm-hmm. Ça ne concerne pas ailleurs.
Et qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre travail?
Le plus pour moi, c'est avoir du travail. Du travail qui me plaît. Et si mes chefs sont contents, leur demander si je peux avoir un petit avancement.
Très bien. Et si vous ne faisiez pas ce métier-là, qu'est-ce que vous aimeriez faire?
Malheureusement, monsieur, je vais vous dire une chose, je suis infirme. Mmh. J'ai une fracture du crâne, double fracture d'épaule gauche.
Ah, ça c'est...
En 56. Et grâce au chef de centre, monsieur, s'il ne m'avait pas accepté, eh bien, je ne sais pas où je serais. Je me suis présenté partout, dans des maisons privées et tout ça. Et un jour,
la seule réponse qu'on lui faisait, ici, c'est pas une usine d'infirme. Ici, c'est pas une usine d'invalide. Voilà.
Et monsieur, il m'a dit, alors, t'as plus qu'à mourir avec ta femme et puis tes enfants. Bon, je te prends un essai. Et au bout d'un mois, avec satisfaction, il a demandé à mon chef de service, il me dit très bien. Bon, me dit, je le garde. Et de 3 ans après, je suis passé titulaire.
Et de plus en plus de femmes mariées travaillent aujourd'hui, monsieur. Êtes-vous personnellement, est-ce que vous êtes pour ou contre ?
Pour.
Monsieur.
Ça dépend. Ça dépend ce que le mari fait. Moi, je connais des personnes qui travaillent à l'EDF, où donc le mari gagne quand même des sommes, c'est peut-être des ingénieurs et tout ça. Alors là, je ne suis pas d'accord. Quand il n'y a qu'un enfant, quand je comprends, mais quand il y en a 2 ou 3, je ne suis pas d'accord.
Bon. Et vous m'avez dit, n'est-ce pas, que vous êtes infirme, mais qu'est-ce que vous faites de votre temps libre ? C'est-à-dire vos soirées.
Mes soirées, j'en ai pas.
Non. Et le dimanche ?
Le dimanche.
Le samedi, peut-être.
Le samedi, si j'ai une réparation à faire ici, si j'ai à aider à ma femme, ou faire des courses, ou aller voir ma mère qui est seule, qui est aveugle, qui a perdu son mari, et mon père. Je vais voir mon frère aussi. Et puis, bien souvent, avec ma femme, on va à la coopérative, au centre Leclerc et tout ça. J'aide des fois ma femme à aller chercher des enfants, parce qu'il faut attendre très longtemps, parce qu'il y a des enfants qui prennent le car. Ils rentrent très tard le soir, et pour aider ma femme un petit peu à la soulager, j'aide même le samedi matin, je les emmène un petit peu, puisque les enfants, vous savez, ils sont un petit peu comme le monde entier, ils sont un petit peu énervés, plus qu'énervés, car on mène une vie de fou.
Et comment avez-vous passé dimanche dernier, par exemple ?
Bon, dimanche, monsieur.
Eh bien, le dimanche dernier, monsieur, je me suis levé, il était 5 heures, calafle, j'emmène mes enfants juste à côté, parce qu'ils partaient encore une vacances, et ils partaient à 6h50. Alors, tant qu'on préparait leur trousseau, enfin, leur tous ont été prêts, mais étant leur faire la toilette, déjeuner, il fallait qu'ils soient prêts.
Et que ferez-vous pendant les vacances d'été ?
Eh bien, monsieur, vous voyez, on avait l'intention de partir en Haute-Savoie, mais vu la situation actuelle, comme elle s'arrange dans le monde, enfin, aussi, principalement en France, je ne crois pas partir.
Et par exemple, si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, que feriez-vous de ce temps libre, monsieur ?
Eh bien, c'est travailler ici. Travailler dans mon atelier, bricoler, arranger des choses ici. Je sais pas, aider ma femme. Et ranger mes dossiers, parce que dans l'administration, il y en a tellement de dossiers. On nous en demande tellement. Puis enfin, aider à faire le courrier à ma femme, même le courrier que je reçois, répondre. Enfin, principalement, faire tout l'ensemble dans la maison. Et je vous dirais, même étant jeune, je n'aimais pas sortir. Je voyais mon frère aller se promener avec ses camarades, mes soeurs et tout ça. Moi, non, je restais auprès de mon père, lui aider à faire le jardin ou bricoler dans son atelier. Voilà, c'était mon seul plaisir. Et souvent mes parents me reprochaient que je sortais jamais. Et même ma mère maintenant me le reproche encore. Tu ne sors jamais.
Alors, pour changer un peu, à votre avis, monsieur, qu'est-ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école ?
La politesse.
Première, oui.
C'est quoi, monsieur ?
La politesse. Première.
Pourquoi?
Parce que dans la jeunesse, maintenant, je trouve qu'elle est des fois un petit peu incorrecte et un petit peu vulgaire. Vulgaire, parce que je vois des fois que mes enfants ils reviennent des fois avec des mots. Je leur dis souvent, où vous avez appris ça? À l'école.
Ils ne savent même pas la portée de leurs paroles.
Et ils ne savent pas la portée de ces paroles. Alors, bien souvent, j'incrimine pas les instituteurs n'importe quoi, parce que tout ça, ça se passe dans la cour. Mes enfants, bon, ben d'accord, je vais les élever d'une façon peut-être un petit peu rigide, mais ils vont peut-être tomber sur d'autres, que les parents, ils s'en foutent un petit peu, ils se laissent entraîner, ben c'est ça. C'est ça que je reproche. Et d'ailleurs, je connais très bien les instituteurs, où il y a aussi bien ma fille que mes deux enfants à Saint-Jean-de-Blanc, ainsi que boulevard Roche-Plate. Bien souvent, ils me disent, c'est vrai, monsieur, vous avez raison. Vous essayez de les mettre dans le droit chemin, mais ils apprennent des mots, vous savez que ça vient de l'école, et ça a toujours été dit.
Et qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école?
Alors, monsieur, je ne peux pas vous répondre.
Et alors, dans quelle matière est-ce que vous croyez qu'est-il bon qu'un enfant soit fort, à part de la politesse, les matières?
Le calcul.
Fort question intellectuelle ou fort physique?
Tous les deux?
Non, le calcul.
Fort physique, oui, premièrement, s'il a une bonne santé, que malheureusement mes enfants n'ont pas.
Intellectuel, oui. Savoir compter,
mais qu'il soit aussi manuel. Et qu'à 15 ans, par exemple, qu'il sache ce qu'il veut faire. Comme on fait s'aîner, par exemple. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Pourquoi je l'ai redoublé d'école? Parce que je voulais qu'il ait son certificat d'études. Je crois que c'est la petite chose, certificat d'études maintenant. Ce n'est plus rien, certificat d'études. On nous demande le CAP, on nous demande le bac, on nous demande tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font les étudiants? Pas grand-chose. Parce qu'il y en a trop.
Trop d'étudiants.
Oui. Et si vous voulez travailler, si vous voulez bien travailler. Et bien souvent, c'est les parents qui trinquent.
Et qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
Trop surmenés
déjà, oui. Mais il y en a d'autres aussi que si vraiment ils y en mettaient un bon coup, et si vous voulez travailler, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils arriveraient à quelque chose. Pourquoi que le gouvernement, il va comment?
Avoir de l'argent et ne rien faire.
Exactement. Avoir de l'argent, ne rien faire, et le gouvernement va commencer à les serrer.
Jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études?
16 ans, c'est pas mal.
16 ans.
Pourquoi 16 ans, monsieur?
C'est-à-dire qu'avant, on quittait l'école plus tôt.
Vous n'avez pas l'expérience,
puis c'est pas ça, on menait pas une vie comme actuellement. Que maintenant, nous menons une vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, aussi bien les parents que les enfants, nous menons une vie infernale. Ça, c'est la génération qui veut ça. Et plus ça ira, plus on mènera une vie de fou.
Est-ce que c'est la même chose pour les garçons et les filles?
Il y a du pour et du contre.
Oui, mais surtout pour les garçons.
Vous êtes d'accord, monsieur?
Oui.
Alors, pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que, d'après vous, on fait assez pour les habitants à Orléans?
Vous me demandez quelque chose qui est en dehors de ma réponse.
Passer, comment vous voulez dire,
comment vous voulez dire, assez question d'habitation, question de... Parce que je peux vous dire une chose, que la ville d'Orléans est beaucoup plus chère que la ville à Paris, par rapport à ce qu'on gagne. Il ne faut pas oublier qu'Orléans a toujours été une ville bourgeoise. Et c'est pour ça que la vie est très chère ici. Moi, j'ai vécu, comme je vous ai dit, 3 ans, 4 ans à Paris. Elle avait été moins chère à Paris qu'ici.
Est-ce qu'il y a à Orléans d'autres personnes qui comptent, qui ont de l'influence à Orléans?
Je vous dirais que, vous savez, je ne fais pas beaucoup d'entretien à certaines personnes que je reste chez moi, c'est tout. Je ne m'occupe pas des voisins, je m'occupe de personnes, je n'ai pas aucun contact. Je connais beaucoup de personnes à Orléans. Mon père connaissait beaucoup des personnalités. Mais j'avais des contacts pareils. Je ne suis pas à la hauteur de... Si j'ai besoin de quelque chose, je m'adresse directement au but. Mais, me dire, la question de l'influence à Orléans,
non. Non, mais...
Alors, on a beaucoup parlé des événements de mai dernier. Moi, je n'étais pas en France à l'époque. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé?
Eh bien, c'est très simple, monsieur. Ce qui s'est passé, les étudiants ont commencé à vouloir se révolter pour la question de la Sorbonne, la question des études et tout ça. Nous, les ouvriers, nous en avons profité parce que vraiment, ça devenait une catastrophe pour la classe ouvrière. On en a profité pour se mettre avec eux. Mais eux, après, nous, on a repris notre travail. Mais eux, après, ils ont continué à exagérer. Et ils exagèrent encore. Et c'est pour ça que le gouvernement, s'il continue, le gouvernement va prendre des sanctions. Ce que M. Igafort a dit l'autre jour. Si vous avez écouté la télévision, c'est tout.
Non, malheureusement, non.
Ce que je reproche aux étudiants, c'est pas avec le gouvernement. En faisant ce que les étudiants, ils ont fait, du scandale, du massacre, de l'incendie, des choses scandaleuses, que j'appelle ça, vis-à-vis des étudiants, eux qui sont pourtant, qu'on dit, intelligents, eh bien non, je trouve pas intelligent.
Sans s'en prendre au matériel,
nous à ce moment-là, la classe ouvrière, on n'a qu'à s'en prendre au matériel. Eh bien le patron nous dira, ben messieurs, vous avez pu rien pour travailler, prenez la porte. Voilà. Voilà ce que j'en viens. Et j'approuve pas les étudiants ce qu'ils ont fait à Paris l'année dernière au mois de mai.
Non,
brûler les voitures.
Vous êtes ici, bah, votre voiture, vous allez ressortir.
Bon, alors, par exemple, vous auriez été à Paris, bah, votre voiture, elle était brûlée. Pourquoi? Pourquoi des abysses? Mais je vous dirais une chose, ça vient un petit peu de l'extérieur. Il ne faut pas s'en vouloir trop aux étudiants français. Ça vient un petit peu de l'extérieur, je ne veux même pas chercher quel étudiant que c'est. Mais c'était poussé par pas mal de pays qu'on voulait faire le bazar en France. Parce qu'en France, ça marchait trop bien. Pardon. Alors, on a voulu essayer, profiter justement que la classe ouvrière et les étudiants se mettaient ensemble. Mais cette année, vous voyez, la CGT fait grève aujourd'hui. Bon, la CFDT, Force ouvrière, ne fait pas grève. Mais il faudrait que les étudiants ils s'arrêtent un petit peu. Car... ce serait dommage parce que c'est eux qui prendront. C'est eux qui prendront. Et qu'est-ce qu'ils feront plus tard? Rien. Des manœuvres. Parce qu'on n'aura pas une place à leur donner. Alors s'ils veulent faire leurs études, qu'ils les fassent comme il faut, mais qu'ils ne fassent pas de scandale. C'est pas avec la force qu'on aura quelque chose avec le gouvernement. Nous-mêmes, la classe ouvrière, On a essayé de faire quelque chose avec la force, mais on n'a rien obtenu. Et vous voyez, on fait pour l'instant des grèves tournantes et tout ça, ça n'arrive à rien. On n'arrivera à rien. C'est le gouvernement qui décide, c'est pas l'ouvrier.
Et comment est-ce qu'on peut expliquer alors ces événements?
Ces événements, il faut penser une chose. Dans les syndicats, il ne faut pas que le syndicat, que ce soit n'importe quel syndicat, CGT, CFDT, Force ouvrière, CFTC, il ne faut pas qu'il mélange la politique avec le biftec. C'est ça qui nous fait du tort à nous, tous les syndicats. Ce qu'on veut, nous, c'est de payer en compensation vis-à-vis de la vie actuelle qui est si chère et qui redemande de jour en jour. Mais il ne faut pas mélanger la politique avec la question du biftec. Parce que là, le gouvernement, il rigole.
Est-ce que les différences entre les classes sociales sont très marquées à Orléans?
Classe sociale, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire là-dessus. La différence, question scolaire.
On parle, n'est-ce pas, des classes sociales.
Entre l'ouvrier et le gros, quoi. Entre le petit et le gros. Beaucoup.
Oui, parce qu'il y a quand même...
Ça se sent.
Vous avez des fils d'ingénieurs, vous avez des...
Oui.
Ben, quand même, l'ouvrier, il ne peut pas se permettre, par exemple, de faire des... de payer des choses, questions scolaires, si vous voulez, que, par exemple, un chef, un ingénieur, n'importe quoi, pourra payer à son gosse.
Et quoi, à quoi est-ce qu'on reconnaît un ingénieur, par exemple?
Tout ça, soit sa tenue, ou tout en parlant, des fois avec lui, des personnes, on apprend que c'est un ingénieur. Mais autrement, moi, je travaille avec des ingénieurs à l'EDF, bien, c'est des hommes simples. Pour moi, c'est des hommes simples. Évidemment, je parle sur la question de ma corporation. Vis-à-vis de l'extérieur, c'est autre chose.
Y a-t-il chez vous un dictionnaire, monsieur?
Oui.
Deux volumes Larousse.
Deux volumes Larousse.
Dix
volumes Larousse.
Oui,
alors, il faut dire des dictionnaires, n'est-ce pas? C'est... Dix volumes. Où est-ce que vous les gardez, ces dix volumes?
Dans un classeur.
Depuis quand?
Depuis 63.
63. Et est-ce que vous avez reçu ces dix volumes comme cadeau, comme héritage ou...
Non, c'est un représentant qui était venu à l'EDF et qui nous a fait une proposition avec une réduction. Mmh. Et c'est là que j'ai acheté ces dix volumes. Reliés et sous couverture plastique. J'ai trouvé très intéressant et on faisait un prix vraiment pour les agents EDF, GDF.
Et est-ce que vous avez une encyclopédie?
Oui, c'est l'encyclopédie Larousse, carrément, en 10 volumes.
En 10 volumes. Et qui s'en sert le plus souvent?
Tous les deux. Des fois, si j'ai un mot que j'entends parler, je cherche, je regarde,
ou un pays,
ou n'importe quoi, c'est...
On s'en sert couramment tous les deux, aussi bien l'un comme l'autre.
L'un comme l'autre.
Et combien de fois par mois, disons?
Oh là là, monsieur, c'est plutôt vague, parce que vous savez, c'est un peu des fois, je sais pas, trois fois par mois, ou alors des fois peut-être qu'un... C'est pas 10 fois par mois, ça dépend. Mmh. Ça dépend ce qui se représente, s'il y a un mot que je comprends pas ou un pays que je veux voir, qu'est-ce qui se passe dans ce pays, comme tout est expliqué, parce que c'est le dernier Larousse sorti. Et Vous savez, tout à fait vague.
Et quand l'avez-vous regardé pour la dernière fois?
On n'a pas longtemps. C'est hier.
Oui, hier. Hier, je ne me rappelle plus.
Si.
Et pourquoi?
Pour savoir le lieu où le président Eisenhower, oui, allait être enterré.
Oui.
Où allait-on mettre le cercueil?
C'est pour regarder, pour chercher où on va enterrer le président.
Oui, le président Eisenhower.
Vous l'avez trouvé?
Oui, oui. Eh bien, c'est un sujet macabre, vraiment, en fait.
Non. Et d'habitude, quel genre de choses y cherchez-vous le plus souvent? C'est-à-dire l'orthographe, le sens d'un mot?
L'orthographe aussi.
Et le sens.
Et le sens du mot.
Le sens du
le
mot.
Sens du mot. Mm-hmm. Surtout en langue française.
Et en géographie aussi.
Beaucoup en géographie, oui. Moi particulièrement, pas ma femme, mais moi surtout en histoire.
Et possédez-vous d'autres dictionnaires du genre Larousse ménager
ou...
Oui,
lequel? L'encyclopédie de la cuisine, pour faire la cuisine, pour faire la pâtisserie.
Et monsieur? C'est Larousse?
Oui, c'est Larousse.
Oui, c'est Larousse aussi.
Puis alors, mettre la question de pour médical aussi.
Mm-hmm. Dossier médical, complet. Oui. Grand volume.
Et, monsieur, possédez-vous un livre sur, disons, l'art de parler, l'art d'écrire, ou les difficultés de langue française, c'est-à-dire l'orthographe, vocabulaire?
Non.
Faites-vous des mots croisés?
Non.
Pourquoi?
D'abord, j'ai pas le temps, et puis, non. Ça ne me plaît pas.
C'est mon beau-père
qui est acharné là-dessus.
Ah oui.
Et d'abord, j'ai pas le temps, puis... Peut-être que j'ai peut-être jamais appris les mots croisés, c'est peut-être pour ça que... Peut-être un jour, je m'y mettrai peut-être un jour.
Très difficile.
Oui. Faut quand même une certaine... C'est-à-dire que je crois pour faire les mots croisés, il faut lire beaucoup. Mm-hmm. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de lire beaucoup comme mon père le faisait. Ah. Mon père lisait beaucoup. À une émission, aussi bien la radio ou n'importe quoi, à ce moment-là c'était la radio, à qui tout double ou n'importe quoi, il répondait avant que le candidat ait répondu. Et souvent je disais à mon père, mais comment que tu fais? Mais il dit, mon petit gars, apprends-toi à lire. Lis beaucoup, tu verras, tu apprends beaucoup de choses. Mm-hmm. Mais je n'ai pas le temps. C'est-à-dire qu'au temps de mon père, à ce moment-là, il n'avait pas la vie comme maintenant.
Mm-hmm. Y a-t-il des différences, selon vous, dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Ah,
oui, monsieur.
Oui. Si par exemple je m'adresse à l'inspecteur primaire ou si je m'adresse par exemple à mon voisin qui est ingénieur, je ne lui causerai pas par exemple comme à mon voisin qui est un simple ouvrier comme moi. Une certaine distinction, qui est vraiment utile d'ailleurs, je crois, dans la vie. C'est une question de politesse premièrement.
Et vous croyez que ces différences sont très grandes?
Ça dépend à qui vous avez affaire.
Oui. Et est-ce que ces différences ont de l'importance pour vous?
Oui. Car ça peut faire juger quand même que j'ai été élevé à... belle éducation et même pour la personne à qui je parle, cette personnalité, il peut voir quand même que j'ai été élevé d'une façon autre que certains jeunes maintenant. Mm-hmm.
Et selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux, ou de plus en plus mal, ou sans changement?
Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il faut voir un petit peu comment... la composition des gens, comment...
À qui
nous avons affaire. Vous avez des gens vulgaires, vous avez des gens qui sont... qui ne causent pas du tout pareil.
Et parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français?
C'est monsieur le chef de centre.
Le français, oui, c'est un grand patron, quoi. Par exemple, soit c'est dans le chef de centre de l'ADS, soit le chef de centre de Posto, soit un grand directeur, par exemple, l'inspecteur d'académie, l'inspecteur d'académie.
Il est très glacial.
Voilà, qu'il est glacial, mais au moins il a une conversation qui est vraiment...
Et très juste, d'ailleurs.
Très juste, mais enfin, et il faut se mettre une chose que vous avez affaire à des gens, des fois, de cette haute classe-là, qui vous comprennent mieux que vous les comprenez.
Et parmi les gens que vous êtes amené à entendre parler, même sans les connaître,
C'est pareil,
la profession, par exemple.
Oui. Il n'y a pas tellement longtemps, nous avons un chef et il est très froid, mais je ne le connais pas, bien sûr, mais vous savez, un respect total. Et pourtant, je l'ai vu plusieurs fois, il me serre la main, tout ça, mais je reste à ma place. Discrétion possible.
Y a-t-il en France un organisme officiel qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
C'est l'inspection, non?
Oui, c'est l'inspection
académique.
Oui. Et est-ce que vous croyez que c'est très utile d'avoir un organisme comme ça?
Oui, quand même.
On dit quelquefois que la langue française se dégrade. Qu'en pensez-vous?
Pas, parce que malheureusement, il y a quelque temps, on lance dans la télévision
ce
monde entier parler français.
Oui. Aussi bien les Chinois que les...
Mais il n'y a pas toutes les nationalités. Je ne crois pas que la langue française se dégradera, bien au contraire. Comme on l'a fait pour les Anglais. La France a voulu bien essayer à parler
anglais. Tous les enfants apprennent l'anglais à l'école. Apprennent
l'anglais à l'école, eh bien, je suis tout à fait d'accord, parce qu'on le fait vice-versa.
Est-ce qu'il faut obliger les journalistes et les speakers de la TV à employer un bon français?
Ah oui, tout le monde l'écoute.
Oui, parce que je crois que c'est la télévision maintenant.
Parce que tout le monde, oui, même les enfants, oui.
Oui.
Et les professeurs?
Les professeurs, c'est... Oui, il faut qu'ils le fassent.
Eux d'abord en premier.
Et seriez-vous favorable à un contrôle des journalistes et des professeurs, des speakers à la télévision, de la radio, etc.?
Tout ça, ça dépend des jeunes.
Si, Monsieur, vous avez des professeurs qui sont à hauteur de leur tâche, et vous en avez d'autres que non. Ils ne sont pas à hauteur de leur tâche, malheureusement.
Non, parce que, voyez-vous, tout dernièrement encore, de la télévision, il y a des professeurs qui sont pour les étudiants et d'autres qui sont contre les étudiants. Alors, donc, les mauvais professeurs, on n'a qu'à les foutre à la porte et garder les bons.
Les bons professeurs, il y en a. Les mauvais professeurs, c'est les plus jeunes, en principe. C'est les jeunes qui sortent de l'école.
Il y en a plus beaucoup de bons professeurs.
Pour compter dans les personnes dans un âge moyen. Mais les jeunes, ils croient qu'ils ont c'était eux qui ont inventé tout. Mais non, ils ont encore à apprendre.
Oui.
Et comment devrait-on exercer ce contrôle dont on a parlé?
Eh bien, ça viendrait un petit peu du directeur. Des fois, certains directeurs, s'ils s'occupaient un petit peu plus davantage de ses moniteurs, de ses professeurs, je crois que s'il y avait une petite tendance de discipline, je crois que les étudiants ne feraient pas ce qu'ils font. Alors, je ne dis pas des fois, certains directeurs seraient peut-être un peu à la moue, comme on dit. Il laisse un peu de laisser aller. Je dis pas tous. Heureusement.
Oui, heureusement.
Heureusement, il y en a encore.
Oui, il y en a encore, oui.
C'est cela qu'il faut garder.
Oui.
Alors à ce moment-là, si le professeur il veut faire un petit peu, chambouler un petit peu la classe, il est d'accord avec les étudiants pour faire un petit peu le bazar. Ben, le directeur, il n'a qu'à prendre une décision ferme, et puis le foutre à la porte carrément, et puis c'est tout. De toute façon, on en trouvera d'autres, des professeurs.
Et aujourd'hui, à votre avis, l'orthographe et la correction de la langue sont-ils enseignés aussi bien, ou mieux, ou moins bien, que du temps où vous étiez vous-même à l'école? L'orthographe, par exemple.
L'orthographe.
Aussi bien?
Non.
À notre temps?
Oui, c'était mieux notre temps.
C'était
mieux notre temps. Oui, monsieur.
Et la correction de la langue?
Correction de la langue, comment? Par les paroles ou...
Tout ça dépend si l'enfant a du mal à parler à ce moment-là. C'est toujours pareil, tout ce que je peux dire. Et c'est que malheureusement, on dépense de l'argent pour foutre une fusée dans le ciel au lieu de faire des écoles de perfectionnement pour des enfants qui sont handicapés. Question de langage, ce qui concerne mon fils d'ailleurs. Je le cite. Et ils ont tout fait pour lui et il fait des progrès maintenant.
Parce que
grâce au directeur.
Au directeur, oui.
Je vais en tirer mon chapeau parce que vraiment il a fait beaucoup d'efforts. Voilà.
Et dans quelle matière étiez-vous, monsieur, le plus fort à l'école?
Bon calcul.
Moi, j'en calcule.
Ne parlez pas des problèmes parce qu'à l'école, alors quand il y avait un problème, pour moi, c'était un drôle de problème. C'était pas un problème, c'était deux problèmes qu'on me présente.
Et par contre, pour moi, c'est la comptabilité la plus forte que je suis.
Alors, l'orthographe, pour tourner une lettre.
Orthographe d'abord, alors, première. Et puis?
Et puis, je pourrais vous expliquer.
Géographie,
oui. Mais, et l'histoire aussi, j'aimais beaucoup l'histoire.
Habituellement, avez-vous quelque chose pour écrire sur vous?
Non.
Là? Ici, là, oui.
Possédez-vous un stylo à encre? Plume?
Non.
Et quand avez-vous écrit pour la dernière fois?
Tout à l'heure? Dans votre travail?
Ben oui, en fait, dans mon travail.
C'était pour quoi?
Ah, c'était une question de travail pour le chef de centre.
Et vous avez besoin d'écrire pour votre travail?
Tout est enregistré, tout ce que je fais. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question... Ça, c'est une petite chose personnelle, si vous voulez.
Et habituellement, portez-vous sur vous un carnet, un agenda ou quelque chose du
même genre? Oui, comme offert à un représentant qui m'a offert. Oui. Représentant de la maison. J'ai ma chérie.
Et si vous deviez dire quelque chose à une personne habitant à 5 km de chez vous, préféreriez-vous vous déplacer ou lui écrire une lettre?
Je lui écrirai d'abord une lettre et j'attendrai sa réponse. Tout ça, ça dépend...
Si c'est urgent ou pas.
Si c'est urgent ou pas, ou alors si nous ne sommes pas d'accord au sujet.
Et si cette personne est un de vos amis, est-ce que vous écrivez ou...
Non, je lui écrirai.
Et cette personne vous est supérieure?
Je lui écrirai pareil.
Pourquoi? Pas de téléphone, par exemple.
Nous, nous n'avons pas le téléphone.
Non, je trouve que le téléphone, c'est incorrect. Une lettre est plus polie que par téléphone. À moi, en cas d'urgence. Si c'est une urgence directe, je peux très bien lui écrire, mais s'il attend, par exemple, il me répond sur une lettre, j'attends votre coup de téléphone, je lui téléphone. Mais s'il ne me le dit pas, je lui écris seulement.
Et est-il important, selon vous, d'avoir une belle écriture?
Ben oui, quand même, un peu.
Un peu?
Oui.
Pourquoi?
C'est quand même. Pas écrire comme un cochon, parce que si par exemple vous faites une lettre à une personnalité, marquez, c'est pas celui qui a la plus belle écriture qui est le plus intelligent.
Parce que les docteurs, des fois, écrivent bien mal, les pauvres.
Ah. Exactement. Vous avez raison, madame. Le docteur est très intelligent et
des fois, il écrit bien mal.
Des fois, vous savez, leurs ordonnances, je crois, sont illisibles.
Est-il important, selon vous, d'avoir de l'orthographe?
Ah oui.
Ah oui, quand même, oui.
Vous croyez que c'est très important?
Ah oui, oui.
Seriez-vous favorable à une réforme de l'orthographe?
Ah non.
Pourquoi?
Mais parce que, par exemple, si vous écrivez une lettre, vous faites des fautes à toutes les lignes.
Non, c'est pas vrai.
C'est, j'appelle ça... préjudice d'abord pour la personne qui écrit la lettre et celui qui la reçoit, il dit bah celui-là c'est un illettré.
Et qui de vous écrit par exemple habituellement à des amis communs?
C'est ma femme.
Et à la famille de monsieur, à votre famille?
Ça dépend.
Ça dépend. Des fois c'est ma femme, des fois c'est moi. Ça dépend. Si j'ai pas le temps, je lui demande de l'écrire. Si j'ai le temps, je le fais.
Et à la famille de la...
C'est moi.
Pourquoi?
En principe, ma femme, je lui fais des fois un brouillon ou n'importe quoi. Ça dépend à qui j'ai à écrire. Puis je lui demande, tu veux me faire cette lettre-là, moi je vais te faire autre chose à la place.
Et qui remplit?
Pardon. Je vais vous situer pourquoi, parce que ma femme a une plus belle écriture que moi.
Voilà. Et qui remplit les papiers administratifs?
Moi.
Oui, mais sous un peu mon contrôle, car ma femme est très fâchée avec les choses administratives.
La feuille d'impôt,
c'est moi,
feuille de sécurité sociale.
Faut que je lui explique bien souvent, parce que... Moi, je travaille à le...
Non, mais les impôts, c'est moi, dis-je.
Oui.
Hein.
Oui, mais il y a des choses, bien les pièces administratives qu'on me demande, je suis à côté d'elle, parce qu'il y a des fois, on demande un tas de trucs que ma femme ne sait pas, alors il faut que j'aille chercher des dossiers par-ci, par-là, alors il faut que j'aille les chercher.
Et, monsieur, qui de vous possède la meilleure orthographe?
Question de faute?
Oui. C'est
moi.
Je crois que c'est
donné
le...
Oui.
Et la plus belle écriture?
La plus belle écriture, c'est madame.
C'est
madame.
Madame. Et qui parle dans le meilleur français? Selon vous.
Nous deux.
Tous les deux, je crois.
Oui.
Tous les deux.
Il y a quelques mots, des fois, que
tous
je
les deux.
Reprends, mais...
Et qui écrit dans le meilleur français?
Bon, c'est pareil.
C'est pareil.
C'est pareil.
Et comment ça se trouve?
Si je veux trouver mes mots, monsieur, c'est le soir que je trouve mes mots. Mais jamais le matin.
Et moi, c'est dans le calme.
Ah, et c'est pareil, si j'écris une lettre, il ne faut pas qu'il y ait mes gosses qui commencent à faire des chahuts ou n'importe quoi. Il faut que j'ai le calme complet. Mais le soir, je vous ferai une lettre, même pour, je sais pas moi, pour un inspecteur ou n'importe quoi, que je n'arrive pas à trouver les mots le matin ou l'après-midi. C'est le soir. Et... ou alors, si se passe une chose, j'arriverai à trouver mes mots. J'y pense toute la nuit.
Non, bah, tout même, monsieur, vous...
Je réfléchis toute la nuit s'il y a quelque chose qui me tracasse pour écrire, par exemple une personnalité. Il faut que je m'y mette dès le matin et je me lève.
Mm-hmm. Alors, combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois au travail?
Voilà, monsieur, c'est incontrôlable.
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 Merci.
Et hors travail?
Au travail, c'est la même chose.
Ici, je l'ai.
Conservez-vous les lettres qu'on vous envoie?
Oui, toujours. Toujours. Quand j'écris une lettre, toujours un double. À n'importe qui.
Et lesquels? Toujours, vous avez dit.
Oui.
Pas bien sûr à ma famille, n'importe quoi, mais à une personnalité, à n'importe qui, question administrative ou n'importe quoi. J'ai toujours un double dans mon dossier.
Et combien en possédez-vous environ?
Oh là, monsieur.
Voilà.
Figurez-vous, j'ai 10 classeurs. Et j'ai 10 classeurs en possession administrative. Eh bien...
ça devrait être une centaine des lettres.
À peu près.
Oui.
Deux centaines?
Une centaine.
Une centaine.
Oh, oui.
Et quand vous écrivez une lettre... à quoi est-ce que vous faites attention? À l'orthographe d'abord?
À l'orthographe d'abord.
Puis la politesse.
La politesse, la présentation de la lettre.
Oui.
Et en même temps,
aux paroles,
faire foi à une bonne réponse correcte. Et donner une lettre bien explicative.
Et faites-vous un brouillon?
Oui.
Quelquefois.
Oui, quelquefois pour...
ça dépend à qui j'écris.
Oui.
Quelquefois. Et quelquefois, quand je écris la lettre, je rectifie des fois, même par rapport à mon brouillon. Tout ça, ça dépend. Au moment quand j'écris la lettre, j'y tiens, non, bah, faut pas que je tourne ça comme ça. C'est comme ça, faut que je tourne ça.
Avec quoi est-ce que vous écrivez
Toujours le crayon.
Un bic.
Un bic.
Un stylo bic.
Parce que je mets un carbone, j'ai mon double.
Et quel type de papier utilisez-vous?
Une lettre ordinaire, papier ordinaire. Une
carré, carreau, ou aligne.
Aligne, des fois carreau, ça dépend ce que j'ai sous la main. Toujours 21-27, bien sûr, c'est plus poli que la petite feuille.
Et la couleur?
Blanc.
Que pensez-vous des gens qui se servent de papier bleu, par exemple? Papier couleur.
C'est pas très tellement correct, d'accord, mais enfin, ça dépend ce que les gens sous la main. Enfin, je crois que c'est l'original, c'est le papier blanc.
Oui.
Le plus logique.
C'est plus le
plus correct,
le
d'accord.
Plus...
Et quand vous devez écrire, disons, un mot d'excuse à l'école de votre enfant, est-ce que vous faites un brouillon d'abord?
Non.
Non, je réponds directement.
Et quand vous devez écrire à votre supérieur dans le travail, est-ce que vous faites un bruit?
Ah oui.
Oui.
Vous arrive-t-il d'utiliser quelquefois du papier à carreaux?
Non.
Jamais pour un chef de centre ou un
grand
directeur.
C'est pas correct.
Y a-t-il des choses, monsieur, qui vous agacent dans la façon de parler de votre femme?
Euh, Oui, des fois quand t'as ses nerfs. Après les gosses.
Exact. Après les gosses. Et vous arrive-t-il de le reprendre quand elle, de le reprendre quand elle parle?
Non, jamais devant les enfants.
Y a-t-il des choses qui agacent votre femme dans la façon dont vous parlez?
Oui, quand les enfants sont trop insupportables, des fois, je crie un petit peu plus fort que je devrais crier.
Ça m'exaspère, ça me...
Voilà.
Ça m'énerve.
Il lui arrive-t-elle de vous reprendre?
Quelquefois.
Oh, oui, mais enfin, dans le...
Comment elle évite, si possible,
devant les enfants. Mm-hmm. Le reprendre douce, c'est le même quand on est tout seul.
Je l'ai fait, comme je le fais.
Tous les deux. Quand on est tous les deux, je lui... Dans l'intimité.
Jamais devant un enfant. Même qu'on n'est pas d'accord, il ne faut jamais faire de remarques vis-à-vis du mari ou de la femme devant un enfant. Car l'enfant, il voit qu'à ce moment-là, il y a quelque chose.
Qui reprend l'autre le plus souvent? Mari ou femme?
C'est-à-dire que mon enfant dit oui, alors vous savez. Vous voyez, là, nous sommes tous les deux.
Ça va très bien.
Très bien.
Et dès que les enfants sont là, ça ne va plus.
Alors, y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de vos enfants?
Dans leur parler à eux?
Oui, quand ils sont incorrects.
Ah oui. Là, je
viens. Est-ce que vous pouvez expliquer, monsieur?
Quand ils sont incorrects ou alors qu'ils répondent à leur mère. Car à moi, ils ne me répondent pas, parce que s'ils me répondent, ils ont une paire de gifles. Et je leur dis, c'est comme ça que je t'ai élevé. Je veux la correction aussi.
Et vous arrive-t-il de les reprendre?
Oh, souvent.
Souvent. Qui les reprend le plus souvent? Vous
ou... Oh. Moi aussi.
Ma femme davantage, parce que moi je ne suis pas souvent là.
Oui.
Et éventuellement, pour quel genre de choses les reprend, madame?
La politesse, monsieur.
La politesse, faire du bruit, jouer sur les lits.
Premièrement, la politesse, et deuxièmement, c'est pas trop. La politesse, c'est le... Quand ils se battent.
Ils se battent entre frères et sœurs.
Se disputent, exactement.
Y a-t-il des mots que vous interdisez de prononcer à vos enfants?
Ah oui.
Ah oui. Que malheureusement qu'ils n'ont pas la école. Mm-hmm. Et ça, je les reprends énergiquement.
Et les punissez-vous s'ils les prononcent?
On les reprend, je les reprends, mais les punir... Je leur dis non, je ne veux plus entendre ce mot-là, sinon, tu auras une paire de gifles.
On leur fait voir
que c'est mal poli.
On leur fait voir par A plus B, comme on dit, que c'est un terme qui est incorrect, impoli, et qu'il ne faut jamais dire ça.
Leur faire voir quand même que...
Leur faire comprendre.
Leur faire comprendre avec, leur mère. Avec leur mère, je ne parle pas comme ça.
C'est pas poli.
Je ne parle pas comme ça. Si vous apprenez ça à l'école, gardez-le pour l'école, mais je ne veux pas l'entendre ici chez moi.
Et vos parents, monsieur, faisaient-ils attention à la façon dont vous parliez?
Oui,
beaucoup. Parce que j'étais vite là, très durement.
Et qui vous reprenait le plus souvent, votre père ou votre mère?
Ma mère.
Oh, ton père aussi.
Oui. Enfin, c'était pareil, c'était pas souvent là non plus.
Et pour quel genre de choses, surtout?
Se battre entre frères et sœurs aussi.
Des disputes, quoi.
Et prenez-vous des sanctions quelquefois?
Des bonnes raclées.
Et votre instituteur faisait-il attention à la façon dont vous parliez?
Oui.
Pour quel genre de choses surtout?
Il voulait que j'apprenne à parler comme il faut.
Correctement.
Oui. Correctement.
Mmh. C'est normal.
Et prenait-il des sanctions quelquefois?
Non, parce que je suis un être très susceptible et sensible. Et si malheureusement il me punissait, il n'arrivait à rien du tout avec moi. Chances. Il n'arrivait à rien du tout. Pas la douceur.
Alors monsieur, cette question va vous faire rire. Mais je la pose quand même. Comment est-ce qu'on fait une omelette chez vous?
Alors là, je...
Là. Ça va rien.
Une omelette.
Qu'est-ce que c'est une omelette?
Non, comment? Oh,
comment est-ce qu'on fait une omelette chez
comment
vous?
On fait une omelette de poulet?
On bat des œufs dans une assiette creuse. Moi, je les bats très fort. Quelquefois, ça dépend les goûts. En principe, on met un petit peu de lait dedans. Il y a des personnes qui n'aiment pas le lait dans l'omelette. Pour la faire baveuse, et à ce moment-là, je prends ma poêle, je prends du beurre. Je fonde, je mets mon omelette et puis je prends une fourchette et puis je fais qu'elle soit bien baveuse et après je la retourne.
Et ça vous plaît?
Et ça me plaît.
Un étranger veut venir en France pour apprendre le français. Dans quelle région est-ce qu'il doit aller d'après vous?
La région parisienne.
Dans quelle ville?
La région parisienne.
Et pourquoi?
Parce que je crois que c'est là où il y a plus de débouchés pour celui que... Dans tous les étrangers, je crois que c'est la région parisienne.
Et est-ce qu'il y a des endroits qu'il devrait éviter?
La campagne.
La campagne, pour celui qui s'y veut apprendre un métier.
Oui, ils ont leur patois à la campagne.
Et pour bien apprendre le français, quels gens devrait-il fréquenter?
Des gens assez...
Dans la classe ouvrière, surtout.
Pourquoi?
Ou alors des gens qui sont assez... Pas les
voilà,
entrées. Déjà,
voilà,
qui sont assez...
qu'ils ont un certain niveau quand même intellectuel.
Oui. C'est intellectuel, oui.
Et est-ce qu'il y a des gens qu'ils devraient éviter de fréquenter?
Oui. Oui. Oui, on a.
Oui.
Par exemple.
On dit... Les petits jeunes, là, qui... C'est les...
Faut qu'ils s'adressent à ce moment-là à des personnes d'un certain âge.
Oui.
Je suppose. C'est mon point de vue.
Oui.
Quelles sont, d'après vous, les difficultés de la langue française pour un étranger?
Eh bien, c'est de l'écrire et de le prononcer.
On ne l'écrit pas pareil qu'on la prononce.
C'est pour ça que la langue française est très difficile. Vis-à-vis de tous les pays étrangers. Moi, j'ai voulu apprendre l'allemand et tout ça, et souvent les Allemands me disaient, la langue française, vous ne l'écrivez pas comme vous la prononcez.
Et est-ce qu'on parle bien à Orléans?
Non.
Vulgaire.
Il y a un patois dans Orléans.
Oui, il y a un patois.
Oui.
Et c'est-à-dire le patois, à part des étrangers qui se trouvent là.
Oui, il y a un patois des étrangers, bien sûr.
Et vous croyez qu'il y a des gens qui ne parlent pas bien?
Ah si.
Ah si, il y a des gens qui parlent bien, mais enfin, dans certains milieux, il y a des gens, vous savez, ils parlent comme ça, plutôt vulgairement. C'est-à-dire, vulgaire.
Vulgaire.
Et à votre avis, le français est une langue difficile?
Oui.
En quoi exactement?
Pour la question, question parler et question d'écrire. Vous écrirez par exemple, on écrit on dit un oignon, et comment vous allez écrire un oignon si vous demandez à un anglais, par exemple, écrivez-moi un oignon. Il va écrire oignon. Non, ça s'écrit oignon. Et je pourrais vous donner, c'était beaucoup de termes comme ça. C'est pour ça qu'on les étrangers trouvent la langue française très difficile, car on ne l'écrit pas comme on la prononce. C'est-à-dire, c'est le contraire.
Quelqu'un est de passage à Orléans. Il vous demande, monsieur, ce qu'il pourrait faire pendant son séjour. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
Pour travailler ou pour son plaisir?
De passage.
De passage.
De passage.
Quand même visiter le parc floral.
Visiter les floralies.
Oui, le parc floral.
C'est la chose la plus belle, la sauce.
Le parc Pasteur.
Le parc Pasteur, le jardin des plantes, tout ce, les musées, car il y a beaucoup de musées ici, musée Jeanne d'Arc, musée culturel qui est à côté. Il y a des choses que maintenant, à voir en Orléans, qui n'existaient pas avant.
À la source, c'est très joli.
Visiter Olivet, qui est très joli.
Très joli, Olivet. Sur les bords du Loiret.
Sur les bords du Loiret.
Ah oui.
Bon. Quelqu'un frappe à la porte de cette pièce. Qu'est-ce que vous lui dites?
Personne ne peut frapper, car il faut sonner chez moi. Je regarde par la fenêtre si on sonne une fois. Si je vois que c'est un représentant n'importe quoi, je ne lui réponds. J'ouvre la porte, je dis, monsieur, c'est pour quoi? Il dit, voilà, si, c'est pour ceci, cela. Si je vois, ça m'intéresse. Je le fais rentrer, si ça ne m'intéresse pas, je dis, merci, merci, monsieur. Je ne besoin de rien.
Mais disons, par exemple, que j'ai trouvé la porte ouverte et j'ai frappé à la porte, ici.
Je vous répondrai.
Entrez, automatiquement.
Je vous répondrai, je vous dirai, monsieur, c'est pourquoi.
Et vous invitez quelqu'un à prendre quelque chose à la maison. Qu'est-ce que vous lui dites pour l'inviter?
Quelqu'un de la famille?
Quelqu'un, oui.
Oh, ben, quelqu'un de la famille sont chez eux ici. Ils savent, je leur réponds.
Aurais-je le plaisir
de
vous offrir...
Oui, ça dépend. Si c'est ton cousin, bon, ben, on se tutoie.
Non, mais c'est quelqu'un,
monsieur... Ah oui, c'est par exemple...
Aurais-je le plaisir de vous offrir...
Oui, est-ce que je vous offre quelque chose? Comme je vous le dirai à vous, monsieur.
Alors...